Bonjour à toutes et à tous, et comme tous les lundis à 15h, nous retrouvons Dominique qui nous a concocté cette semaine une potion un petit peu spéciale et au programme sorcières, citrouilles, araignées, etc., etc. Bonjour Dominique.
Bonjour Agathe, et oui, c'est bientôt Halloween. La joie des enfants, et même, je dois le reconnaître, souvent des grands, hein, parce que la fête, elle a pris des ampleurs depuis quelques années en France, et tout le monde fête à leur façon cette nuit un petit peu particulière. Donc, moi, j'ai pensé que nos auditeurs avaient le droit aussi d'écouter des contes un petit peu étranges.
Et est-ce qu'on sera récompensé par des bonbons ?
Ah ben, écoutez, tous ceux qui veulent venir nous dire un petit bonjour, ben, je pense qu'ils en auront un, en forme d'araignée, ou je ne sais pas, peut-être pas trop engageant quand même, hein.
On va commencer par une histoire pour les tout-petits.
Et oui, bien sûr, à chacun son Halloween. Donc celle-ci d'histoire s'appelle « Une sorcière pas comme les autres ». Une sorcière pas comme les autres. La sorcière Bergamote habite une pauvre maison dans la clairière. La maison a triste allure avec ses planches vermoulues, avec sa porte et ses fenêtres tordues. Bergamote est laide, mais très gentille, contrairement aux autres sorcières. Bergamote se sert si rarement de sa magie pour accomplir des maléfices que, peu à peu, ses pouvoirs ont diminué. Mais les gens du village l'ignorent et s'enfuient, affolés dès qu'ils la rencontrent. Seuls les animaux de la forêt sont des amis. Un jour, un corbeau noir frappe à la porte, portant un message en son bec. « À la pleine lune aura lieu le sabbat des sorcières. Chaque sorcière devra exécuter un tour de magie. Les plus réussis seront récompensés. » Signé Carabosse. « Catastrophe !» s'écrie Bergamote. Oh, « j'ai oublié la plupart des formules magiques et je ne sais plus préparer de potions. Oh là là, quel malheur !» Bergamote replonge dans ses vieux grimoires et révise toutes ses formules. « Le temps presse !» dit Bergamote. « La pleine lune est née 5 jours exactement. » Les animaux de la forêt la regardent, étonnés, et s'interrogent. « Mais qu'arrive-t-il à la sorcière Bergamote ? Elle paraît bien préoccupée. » Le hibou, gêné par toute cette agitation, ulule. « Ouh, sorcière Bergamote, ouh, ah, quel joujou !»« Ah, mon ami hibou, dans 3 jours aura lieu le sabbat des sorcières. La fée Carabosse demande que chaque sorcière exécute un tour de magie. Oh, je me rappelle à peine des formules magiques et je rate la plupart de mes tours. »« Je vois, » dit le hibou. « Apporte-moi tes grimoires, je vais t'aider. » Le hibou ouvre un gros livre poussiéreux en éternuant. « En effet, » dit-il, en s'éventant d'une aile, « tu ne dois pas souvent l'avoir consulté. Dis-moi, comment transforme-t-on un champignon en un bouquet de fleurs ?» Bergamote réfléchit et répond d'une voix hésitante. « Champignon, patchoula, en fleurs, transforme-toi. » Le tour de magie a réussi. Quel superbe bouquet ! Bergamote salue sous les acclamations des animaux de la forêt. Ils sont tous là, assis en rond dans la clairière. « Pas si vite, » dit le hibou. « Ce tour est la portée de n'importe quelle apprentie sorcière, » s'exclame-t-il. « À présent, Bergamote, tu vas faire apparaître une grenouille et la transformer en citrouille. » Bergamote réfléchit quelques instants et dit « Grenouille, patatras, dans l'instant tu paraîtras. » Et, dans un nuage de fumée, sur l'herbe verte apparaît une tomate. Les animaux de la forêt s'amusent beaucoup. Bergamote recommence et sur l'herbe verte apparaît une deuxième tomate. Fou rire dans la clairière. Le hibou souffle la formule à Bergamote, qui réussit enfin son tour. Puis, Bergamote tente de composer des potions magiques à un grand chaudron. Potion ratée, potion renversée. Bergamote est épuisée. Elle se couche et s'endort aussitôt. Le lendemain, au coucher du soleil, Bergamote enfourche son balai et disparaît dans le ciel sombre. Le sabbat des sorcières commence. Bergamote met un grand chaudron. À l'intérieur, elle y glisse tous les ingrédients classiques pour obtenir un filtre magique. Bave de crapaud, ongles et poils d'animaux, quelques carottes en rondelles et 3 poireaux, bien mélangés. Elle goûte. Oh, oh, mais c'est imbuvable. Ce filtre vous rendra encore plus gentil que moi, dit Bergamote. Bien sûr, aucune sorcière ne veut y goûter, car toutes souhaitent rester de méchantes et vilaines sorcières. Le sabbat se termine, mais pas de prix pour Bergamote. Tant pis,
Ben, je repars vite. J'ai tant de choses à faire, dit-elle.
De retour dans sa forêt, Bergamote se mit à bricoler sa maison. Elle scie des planches, donne des coups de marteau et peint le tout en vert. En dernier, bien en vue sur la façade, elle cloue une pancarte. Bergamote primeur. À la surprise générale, Bergamote explique.
Je transforme tout en fruits ou en légumes, et même en fruits et légumes. Alors autant les vendre, explique-t-elle à ses amis de la forêt.
C'est ainsi que, chez Bergamote, on peut acheter de curieux fruits et de drôles de légumes. Des pommes de terre au goût de carottes et en forme de cornichons, des poires en forme de melon et au goût de fraises. Bergamote aura décidément toujours des problèmes avec ses formules magiques. Mais ses amis l'aiment comme ça.
Alors j'espère que les sorcières provençales ratent moins souvent leur formule, hein.
Oui Agathe, eh bien, écoute, effectivement les deux contes qui suivent sont tirés de la Provence. Le premier s'appelle « Le peuple des eaux souterraines ». Un jour, un jeune berger du nom de Gastounet mena paître ses moutons sur les hauts plateaux de Provence. Il se laissa tellement distraire par la beauté sauvage des lieux que, chemin faisant, il se perdit. Vers la fin de l'après-midi, alors qu'il songeait à s'en retourner chez lui, il réalisa qu'il ne savait plus où il était. Le soleil se cachait derrière déjà de grands rochers biscornus et aucune étoile ne pouvait encore l'aider à retrouver sa route. Alors, les arbres noueux lui parurent moins familiers, les gorges profondes plus sombres, les cascades plus grondantes et leur écho plus inquiétant sur les pierres déchiquetées. Il rassembla son troupeau et constata qu'il lui manquait un agneau. Inquiet, il le chercha dans les herbes folles agitées par le vent du soir, mais en vain. À la nuit presque tombée, il entendit un faible bêlement et se laissa guider vers lui. Bientôt, il arriva au bord d'un gouffre dont il ne pouvait voir le fond et d'où lui parvenait encore la voix du petit animal. Estimant que le trou était encore trop étroit pour qu'il pût s'y introduire, il chercha une autre issue. Les ombres des montagnes se dessinaient encore sur le ciel où la lune lentement s'éclairait. Après avoir marché un moment entre les touffes de fleurs aux couleurs soudainement éteintes, il trouva l'entrée d'une grotte derrière un rideau de ronces grises. Mais une grille robuste embarrait le passage. Le berger la secoua de toutes ses forces. La terre s'effrita un peu autour du scellement. Quelques pierres dégringolèrent, mais la barrière demeura solide. Alors, le garçon sortit son couteau et s'arma de patience pour gratter la serrure rouillée et fouiller à l'intérieur de la pointe de sa lame. Au moment où il commençait à se décourager et à n'y plus voir grand-chose tant la nuit était tombée, il sentit le pêne céder. La clenche se décoinça et le jeune homme poussa la grille qui grinça lugubrement. Sur le seuil, le berger hésita un instant. Devant lui s'ouvrait un corridor si noir qu'il paraissait mener jusqu'au cœur d'un enfer glacé. Mais la voix de l'agneau lui parvint à nouveau, faible et proche à la fois. Et Gastounet se dit « Un peu de courage, ce n'est qu'une grotte après tout. J'y prendrai mon agneau et je m'en retournerai aussitôt à l'extérieur. Comme il sera trop tard pour tenter de retrouver mon chemin, moi et mon troupeau, nous dormirons à la belle étoile, toison contre toison, souffle contre souffle, rêve contre rêve. Ce ne sera pas la première fois. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Et, bravement, il s'enfonça dans les ténèbres. Mais, au fur et à mesure qu'il avançait, il lui semblait que la voix de l'agneau s'éloignait. D'autres voix plus étranges se mêlaient à la sienne. De doux gémissements s'en laissaient au bêlement. Des rires étouffés les entrecoupaient. Des bruits d'eau ruisselaient le long des parois obscures. Et des chants suaves s'élevaient des profondeurs insondables. Bientôt, Gastounet remarqua que ses yeux s'habituaient à l'ombre dense et qu'il commençait à voir l'intérieur de la grotte comme sous les rayons d'une lumière pâle dont on ne pouvait deviner la source. Sous cet étrange éclairage blafard, il distingua les formes mi-humaines, mi-fantomatiques d'un peuple souterrain. Elles rampaient sur le sol couvert d'une eau glauque dans laquelle le berger pataugeait et vinrent s'enrouler à ses chevilles en murmurant un chant aux paroles indistinctes. Pétrifié, Le berger se laissa frôler par leurs longs corps humides qui n'en finissaient pas d'onduler et de se déployer comme d'interminables écharpes mouillées. Peu à peu, le sens des mots qu'elle chantait s'insinua dans ses oreilles et il crut comprendre. « Viens donc, gentil berger, viens donc nous retrouver dans les flots des eaux souterraines. Tu y rencontreras notre reine. Il ne faut pas que tu t'étonnes si elle t'offre sa couronne, ainsi qu'un lotus bleu et noir qui fleurit ici chaque soir. »«
Je me moque de votre reine, » répliqua Gastounet. « Je ne veux pas sa couronne, encore moins de sa fleur bizarre. Allez donc lui demander de m'aider à retrouver mon agneau. » Il est tombé dans ses profondeurs et je voudrais bien l'en retirer pour le ramener dans ma bergerie. »
Les créatures étranges se turent, stupéfaites. Puis elles disparurent, les unes après les autres, en longue fuite silencieuse.
« Hé, ne partez pas! Je veux bien voir votre souveraine, à condition qu'elle me permette de récupérer mon petit mouton. »
Aussitôt, quelques-uns des êtres nocturnes rebroussèrent chemin pour le prendre par la main et l'accompagner. Ils traversèrent maintes corridors qui les menèrent à maintes salles souterraines. Ils franchirent maints bras de rivières qui surgissaient de nulle part pour s'en aller on ne sait où. Puis ils parvinrent dans une caverne plus vaste que les autres où trônait une femme d'une extraordinaire beauté. Elle avait le teint plus pâle que la nacre, ses yeux plus verts et plus foncés que les eaux des gorges les plus profondes et les cheveux plus longs que l'écume des cascades. Sur ses genoux, elle tenait l'agneau perdu et le caressait de ses doigts minces aux ongles bleus. Sa voix s'éleva, fluide et douce. « Approche donc, gentil berger. Je n'ai jamais vu de jeune homme comme je n'avais jamais vu d'agneau quelques heures auparavant. Cet animal est doux et chaud. Il sent les fleurs, le miel et le soleil que je n'ai jamais aperçu ni goûté, mais dont on m'a déjà parlé.
« Et qui vous en a donc parlé ?» demanda Gastounet.
« Des gens venus se perdre ici il y a si longtemps que plus personne ne se souvient d'eux sur cette terre. »
« Qui étaient-ils ? »
« Des voyageurs et des bergers, comme toi, mais plus vieux. »
« On m'a raconté au village comment certains d'entre nous avaient disparu autrefois. Et que n'avez-vous fait ?»«
Oh, je n'en sais plus trop. Rien. Enfin, qu'importe. Veux-tu un doigt de potion de chauve-souris ? Une larme de crapaud ?
Oh, non, merci. Je voudrais reprendre mon agneau et m'en aller d'ici. »
La reine s'assombrit.
« Pourquoi désires-tu partir si vite ? Tu me plais, et si tu le veux, je pourrais t'offrir ma couronne. Regarde, elle est faite d'émeraudes plus vertes encore que mes yeux. Avec moi, tu deviendras riche et puissant. Nous repartagerons aussi les pouvoirs du lotus bleu et noir qui fleurit ici chaque soir. De ses pétales s'exhale un parfum qui préservera ta jeunesse. Et, comme moi, tu deviendras immortel. Ensemble, nous régnerons pour l'éternité sur ce monde de ténèbres, gardé et servi par ces gnomes qui se soumettront à toutes nos volontés. »
Gastounet contempla la belle créature qui lui offrait de partager l'infinité de sa vie et de son pouvoir. Autour de lui, les gnomes le regardaient de leurs prunelles transparentes et paraissaient attendre sa réponse. Devant les murs de ce palais incrusté de perles et de diamants, il songea un instant à sa pauvre demeure. Il s'imagina volontiers, sans souci de vivre ni de mourir, aux côtés de cette dame si douce et si belle. Mais l'agneau bêla. Il lui sembla entendre dans sa voix toutes les souffles de la Provence. Il lui sembla voir luire dans ses yeux toutes les lumières qui coulent comme un miel blond sur les pâturages. Il lui sembla humer de sa toison tous les parfums des herbes sauvages. Alors il déclara « Je regrette. Vous êtes la plus belle des reines que je n'ai jamais rencontrée. » Mais je ne pourrais pas me passer de vivre au grand soleil, ne serait-ce qu'un instant, entre deux pluies ou deux chagrins, entre deux joies, entre deux faims, entre deux fêtes, entre ma naissance et ma mort. » Les yeux de la reine s'assombrirent davantage, ses lèvres mauves se serrèrent, ses ongles bleus se crispèrent sur la toison de l'agneau. L'animal poussa un cri, s'agita et sauta de ses genoux pour s'échapper vers un corridor. Sans attendre, Gastounet partit à sa poursuite, et les gnomes emboîtèrent le pas au berger. Celui-ci courut derrière son petit mouton de couloir en couloir. Il aperçut des cheminées dans les plafonds des grottes, mais elles étaient trop hautes pour qu'il puisse les atteindre. Il perdit souffle et les retrouva. Bien des fois, les gnomes faillirent le rattraper et lui enchaîner les pieds de leur long corps en écharpe. Heureusement, il parvint enfin à l'entrée où la grille s'était refermée.
Effrayé à l'idée d'être à jamais emprisonné dans les profondeurs souterraines, il y donna un coup de pied violent. La serrure qu'il avait forcée ne résista pas, et il sortit enfin à l'air libre, laissant derrière lui les êtres des profondeurs de la terre que la lumière du jour incommodait. C'est ainsi qu'il se rendit compte qu'il avait passé la nuit entière dans les entrailles des montagnes. À présent, l'aube pointait derrière les sommets. Le soleil, avec lenteur, embrasait le ciel où les étoiles s'effaçaient une à une. Le vent se levait dans les hautes herbes. Les touffes de fleurs s'allumaient aux couleurs. Et des parfums multiples et fugitifs montaient doucement de la terre. Le berger retrouva son troupeau. Il installa l'agneau sur son dos et, sans un regret pour les présents qu'il avait refusés dans le monde des eaux souterraines, il retrouva le sentier qui le menait vers sa maison.
On continue avec la coulobre. Est-ce qu'on va apprendre ce que c'est dans ce conte, la coulobre ?
Ben j'espère. C'est vrai que ça peut paraître aux gens non familiarisés avec la région un petit peu bizarre, mais bon, on va comprendre. Elle vivait sous un rocher recouvert par les eaux de la Sorgue. Pourtant, elle n'y avait pas toujours vécu. Autrefois, au temps où la Gaule hésitait entre l'ordre et la barbarie, elle n'était qu'une simple couleuvre et se glissait dans les herbes hautes et se prélassait au soleil. Mais une couleuvre géante qui ne trouvait pas de mari. Le seul qui voulut bien d'elle était un dragon hideux qui l'abandonna peu de temps après leurs noces pour s'en aller terroriser les pauvres gens sur d'autres terres de Provence. Quand la couleuvre s'aperçut qu'elle allait bientôt être mère, elle s'en fut cacher sa honte au milieu des eaux écumantes qui jaillissaient d'un inquiétant monde souterrain au fond d'une vallée close. Elle n'en sortait que la nuit pour jeter la désolation sur toute la région. Au soir, au temps où le roi Clovis s'acharnait à mettre un peu d'ordre sur ces terres peu civilisées, un saint du nom de Véran passait par là. Il arrivait d'Italie et portait la bonne parole dans les villes et les villages. Se nourrissant de fruits, s'abreuvant à l'eau des sources et couchant à la belle étoile sur les pentes du Luberon, il redonnait espoir aux pauvres gens qui lui contèrent les méfaits de cet animal devenu légendaire. Afin de ramener la paix en cet endroit où autrefois il avait joué enfant, le saint décida d'affronter le monstre. Il guetta longtemps près du gouffre et vit enfin sortir des eaux un serpent géant à la tête immonde, au corps visqueux, couvert d'écailles phosphorescentes et muni de curieuses ailes de chauve-souris. Au moment où le reptile allait se jeter sur cette proie facile, Véran fit le signe de croix. Aussitôt, une blessure sanglante apparut au flanc de l'animal qui poussa un gémissement terrible avant de s'enfuir dans les airs. La couleuvre vola un moment, cherchant un lieu où se poser. Elle vit bientôt se dresser devant elle les sommets des Alpes. Au bout de fatigue et de douleur, elle ne parvint à s'élever plus haut dans le ciel et heurta un grand mont rocheux où elle s'effondra. On la crut morte. Et plus tard, naquit en ce lieu un hameau portant le nom du saint. Mais la coulobre reparut, parfois, sur les rives de la Sorgue, et force fut à tout le monde de croire qu'elle avait survécu et songeait même à se venger. Elle logeait sous un rocher au fond de la rivière, d'où elle ne sortait que pour jeter son dévolu sur les jeunes gens qui lui plaisaient et dont elle espérait qu'ils pourraient faire de bons maris et de bons pères pour ses enfants. Mais aucun d'entre eux ne voulait avoir pour épouse une créature aussi laide. Alors, elle les entraînait dans son repaire et elle les dévorait sans doute, car on ne le revoyait plus. Des siècles plus tard, un jeune Italien vint s'installer dans la région. Il acheta une maison sur la rive de la Sorgue, une maison avec deux jardins. Par une belle matin d'avril, il se rendit à l'église Saint-Clair d'Avignon, où il aperçut la plus belle femme qu'il n'eût jamais vue dans sa vie. Elle était blonde, comme les herbes sèches sous un soleil ardent, et son visage était plus doux que la douce des brises de l'été. Un jeune étranger en tomba si amoureux qu'il voulut en savoir davantage à son sujet. Il interrogea les gens du pays. On lui apprit que la jeune femme se nommait Laure, mais qu'elle était déjà mariée au seigneur Hugues de Sade. Le jeune homme, du nom de Pétrarque,
tenta d'oublier la belle. Il n'y parvint pas et se résolut à lui écrire pour lui déclarer sa flamme. Mais la dame était vertueuse et ne consentit, à force de lettres et de poèmes, qu'à venir un jour visiter ses jardins et se promener avec lui. Le poète se contenta de la promesse de sa présence, du désir de sentir prochainement le regard de ses yeux clairs se poser sur lui et de l'espoir d'entendre le son mélodieux de sa voix qui enchanterait bientôt leur conversation. En attendant, il envoya un peintre supplier Laure de le laisser faire d'elle un habile portrait miniature. L'épouse du seigneur Hugues accepta volontiers de poser et, quelque temps après, le poète put porter sur lui, que ce fût au bord des fontaines, dans les ruelles d'Avignon ou dans les couloirs de sa maison, l'image de sa bien-aimée. Cependant, la couleuvre n'était pas insensible au charme du bel Italien. Elle nourrissait en secret la chimère de l'emmener vivre avec elle et ses enfants. Mais elle n'osait l'effrayer en se montrant à lui brusquement, comme elle l'avait fait à d'autres jeunes gens, qu'elle avait dû croquer ensuite. Elle se tenait donc juste en dessous de la surface des flots, frôlant les rives du jardin où elle le contemplait amoureusement, tandis qu'il écrivait, rêvait sous les feuilles. Par un bel après-midi, la couleuvre vit entrer chez son bien-aimé une femme si merveilleuse qu'elle comprit aussitôt qu'aucun rêve ne lui était permis. Jamais le bel Italien ne déciderait de son plein gré de venir vivre avec une créature monstrueuse, laide, sous les eaux. Folle de rage et de douleur, elle bondit à la surface au moment où le poète se penchait sur la main de son invité pour y déposer un baiser. Voyant surgir le monstre devant elle, Laure poussa un cri et tomba évanouie dans l'herbe, tandis que Pétrarque, saisissant son épée, transperçait l'animal sans autre forme de procès. Afin d'éviter à la dame de son cœur une vision affreuse, le jeune homme rejeta le dragon à l'eau avant qu'elle n'eût repris conscience. Et le cadavre vogua au gré des flots jusqu'au gouffre de la vallée close où il fut englouti à nouveau. La nouvelle de cet exploit passa de bouche en bouche et le bel Italien devint bientôt aussi fameux que Saint Véran parmi les gens du pays. Cela n'empêcha pas sa belle de demeurer vertueuse et fidèle à son époux, auquel elle donna 11 enfants. Devenue célèbre par ses écrits, le poète repartit en Italie. Par un beau matin d'avril, il apprit que Laure était morte le jour de ses 40 ans, empoisonnée par une épidémie de peste dont le souffle avait pris naissance, à ce que l'on disait, dans les vapeurs du gouffre de la vallée close. Inconsolable, il s'en alla sur tous les chemins d'Europe chanter la beauté de celle qu'il avait aimée. Puis, vieilli, fatigué, d'honneur, de richesse, il revint dans sa maison dont les deux jardins conservaient le souvenir de Laure dans la blondeur des herbes ensoleillées et dans la brise de l'été. Il y vécut encore 16 années. Parfois, il s'en allait rôder aux abords de l'antre terrible où il avait disparu la couleuvre. Mais il n'en voyait surgir que de petites salamandres, d'un noir d'encre, tachetées d'or, dont on disait dans la région qu'elles étaient les enfants du monstre et qu'elles n'avaient jamais grandi, faute de parents à aimer.
Couleuvres, dragons terrifiants. Là, on va passer à des personnages qui ont été interprétés par des enfants. Il s'agit d'une pièce de théâtre que tu as écrite, Dominique, et qui a été effectivement jouée par les jeunes enfants de ton atelier théâtre.
Oui, tout à fait, Agathe. Effectivement, donc avec notre association Utopiaire de Céreste, l'atelier théâtre avait besoin de jouer des petits personnages. Donc, pareil, à l'occasion d'Halloween, on a eu l'idée d'écrire une pièce sur des sorcières. Les enfants avaient vraiment plaisir à jouer, évidemment, ces personnages-là. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a eu d'autres enfants qui sont venus intéressés. Donc, on a réagrémenté cette pièce à nouveau en remettant des personnages en plus, de juges. Voilà, ça leur a fait, je pense, plaisir. Donc, si tu le permet, on va lire cette petite pièce qui peut aussi être adaptée en conte, hein, effectivement. Ça s'appelle le trophée de sorcellerie. Il est un pays étrange où une fois par an est organisé le trophée de la sorcellerie. C'est un concours impressionnant où chaque participe rivalise d'ingéniosité, de pouvoirs magiques plus terrifiants les uns que les autres. Et l'enjeu est d'une importance capitale. Le ou la gagnante se verra confier pendant toute l'année la formation des apprentis grands sorciers, ainsi que celle des cancres, sections, sorcellerie et sortilèges. D'habitude, Crâne Moche et Caraba, deux cousines sorcières, participaient chacune de son côté à ce concours. Mais hélas, leur évidente nullité en sorcellerie faisait perdre chaque année ces deux malheureuses candidates. « Qu'en pensez-vous, chers confrères ?» dit un premier juge à un deuxième. « De quoi donc ?»« Du concours, mon ami, du concours. Aurons-nous un bon cru cette année ?» Mais voyons, la sorcellerie est une chose sérieuse, il ne peut en être autrement. Autrement ? Auriez-vous perdu la mémoire, mon cher confrère ? Ne vous souvenez-vous pas de ces deux candidates complètement nulles de l'an dernier ? Ah oui, je me souviens. Ah oui, ah non, ces deux-là. Oh ben personne ne peut les oublier. Rappelez-vous de leur tour de magie ratée qui n'avait de magie que le nom. Je n'avais jamais vu ni rencontré quelque chose d'aussi ridicule ni vu des sorcières aussi ratées. Le deuxième juge répartit. Oh, rassurez-vous, je ne crois pas qu'elles osent se représenter cette année. Ce serait presque une injure à notre savoir. Voulez-vous que je consulte la liste ? Je viens juste de la recevoir. Faites, faites, je vous en prie. Mais j'ai du mal à croire que leur nom y figure. Le deuxième juge, consultant la première page, la deuxième page, n'y voyait aucun nom, puis en tournant la troisième page, ah si ! Mais si ! Elles seront bien présentes. » Alors, le premier juge, complètement ahuri, consultant. « Mais ce n'est pas possible ! Mais ce n'est pas possible ! Montrez-moi cette liste, cher confrère !» Et dut constater qu'effectivement, les deux noms étaient bien inscrits. « Oh, j'en ai mal au crâne d'avance !» Mais retrouvons nos deux apprenties sorcières. Crâne Moche dit « Dis-moi, as-tu une idée du tour que l'on pourrait faire cette année ?» « Pas trop, répondit Caraba. Tu sais combien chaque année nous jouons de malchance. Alors je n'ai pas trop réfléchi. »« Moi, répondit Crâne Moche, j'ai bien quelque chose qui trotte dans ma tête. »« Ah oui, c'est quoi ?» s'inquiéta Caraba. « Ben d'abord, en toute première chose, il faudra nager. Oh, »« Nager ?» coupa vivement Caraba. « Mais je ne sais pas nager. »« Eh bien, tu apprendras, lui répondit avec empressement Crâne Moche.
« Oh, mais je ne veux pas plonger dans la mare aux canards. L'eau est croupie et ce sont trop mauvais. »
« Mais qui te parle de cela, Caraba ? Qui te parle de cela ? Non, tu vas faire comme tout le monde de normal. Tu vas aller à la piscine municipale. » Pas très motivé, Caraba. Mais trop fière vis-à-vis de sa cousine, voulant pas se dérober. D'ailleurs, si elles veulent gagner, il faudra bien bon gré mal gré passer par la case piscine. « Caraba, dit, oh, je n'ai pas du tout envie de me baigner. J'ai horreur de l'eau. Ça mouille trop. Mais bon, oh, je n'ai vraiment pas trop le choix. » Alors, bah tant pis, j'y vais, quoi. Après avoir longuement hésité devant l'entrée, elle franchit la porte et se retrouva au bord du bassin. Bah, voyant tout le monde sauter, nager, s'amuser, elle prit son courage à deux mains et ni une ni deux sauta dans l'eau avec force. Et coula à pic. Oh, heureusement pour elle, un beau garçon dans la file d'attente du plongeoir aperçut la scène. Il plongea aussitôt à la rescousse de notre pauvre Caraba. Il la saisit d'abord par les cheveux, puis, lui glissant son bras sous le cou et les épaules, la sortit rapidement de l'eau. Caraba avait bu la tasse. Elle toussait, crachait, et pour l'aider à reprendre au plus vite ses esprits, il se pencha au-dessus d'elle et lui parla doucement. Un électrochoc pour Caraba. Elle avait un ange au-dessus d'elle. Son cœur se mit à battre. Un sourire béat se dessina sur ses lèvres. « Je rêve ou je suis au paradis ?» Ça y est, elle était amoureuse. « Oh, comme il est beau et il s'intéresse à moi » pensa-t-elle. « Oh, je suis heureuse !» Voyant qu'elle reprenait ses esprits, il lui dit quelque chose qu'elle ne comprit pas tellement elle était sous le charme. Et il s'éloigna. « Ah non, pas déjà, s'affola Caraba. Il faut que je sache son nom et où il habite. Je vais le suivre, et après je rejoindrai ma cousine. » Aussitôt dit, aussitôt fait, elle se mit à le suivre. Quand elle eut les renseignements espérés, elle retourna effectivement chez sa cousine Crâne Moche. « Crâne Moche, ma chère petite Crâne Moche, j'ai une idée formidable pour notre tour de magie. Voilà, tu as besoin d'un bon nageur pour la réussite, eh bien j'ai la solution.
Figure-toi que je viens de faire la connaissance d'un garçon qui nage comme un poisson. Oh, en plus, il est beau comme un dauphin. Accepterais-tu qu'il participe à notre tour ?
Bon, je ne sais pas. C'est qui ? Répondit Crâne Moche.
Ben, je ne sais pas trop, reconnut Caraba. Je sais où il habite. Si tu veux, demain, on le suivra pour savoir ce qu'il fait.
Crâne Moche perplexe.
Ah oui ? Et tu l'abordes comment ?
Ah, c'est vrai, ça. Ah, je ne sais pas trop. On a fait connaissance, mais tellement bizarrement. Oh, j'ai un peu honte.
Au petit matin, cachée derrière un arbre, elles guettèrent le beau jeune homme. Trop absorbées, elles ne virent pas s'approcher à toute vitesse un énorme chien qui se mit à jaquer et à attaquer cette pauvre Crâne Moche. Immédiatement, elles regardèrent en direction du garçon. Mais elle ne réagit pas. Il avait un casque d'un MP3 sur la tête, ce qui l'empêchait d'entendre tout bruit extérieur. Sans s'en rendre vraiment compte, elles étaient arrivées à la hauteur du garçon. Quand je ne sais comment, Caraba, dans une magnifique pirouette, s'affala tout son long au pied du jeune homme.
Elles n'osèrent lever la tête.
Lui, grand seigneur, retira son casque, sourit et une fois de plus ramassa cette pauvre Caraba. Toutes les deux le remercièrent et ainsi, sans vraiment l'avoir choisi, venaient de trouver la manière de l'aborder.
Si j'osais, je vous demanderais bien quelque chose, dit avec courage Caraba. Accepteriez-vous de nous aider à réaliser notre tour de magie au grand concours organisé cette année ?
Il nous faut un excellent nageur. Et je dois reconnaître, vous êtes la personne idéale.
Pourquoi pas, répondit-il. Que devrais-je faire exactement ?
Crâne Moche lui expliqua. Il faudra remonter les algues bleues du fond du lac, c'est très 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 important. Il accepta tout de go, à la grande satisfaction de nos deux sorcières étonnées mais ravies. Le but du plongeon était de ramener ces algues bleues accrochées tout au fond du lac que nos deux sorcières changeraient en un énorme crapaud phosphorescent. Le jour suivant, arrivés au bord du lac, ils entreprirent une répétition générale. Le garçon plongea vaillamment et avec fierté, leur ramena ce qu'elles avaient demandé. Crâne Moche et Caraba se mirent en condition. L'une se prenant la tête entre les mains, les yeux fermés, le visage tourné vers le ciel, la bouche émettant de faibles sons incantatoires. L'autre, les mains au-dessus des algues posées au centre d'un cercle dessiné sur la souche d'un arbre, attendant de tout évident qu'il se passe quelque chose. Le garçon, lui, s'était placé un peu à l'écart, guettant avec prudence, un léger sourire au coin des lèvres, que la transformation s'effectue. Mais rien, rien n'arrivait. Il fallait bien se rendre à l'évidence, le tour avait raté une fois de plus. Voyant leur mine dépitée, il se joignit à elles et les rassura. « Ça n'a pas fonctionné ? Ne vous découragez pas, c'est normal. Les répétitions, ça ne marche pas forcément. Ce n'est que le jour du concours qu'elles réussissent. » Il était si sûr, si gentil, qu'elles crurent ses paroles et lui donnèrent rendez-vous le jour J. Lorsqu'enfin arriva le moment tant attendu, un peu hésitantes, elles se présentèrent au grand sorcier. Histoire de se préparer, elles débutèrent par un tour qu'elles maîtrisaient, le tour du foulard. Devant cette réussite, se sentant fortes, elles mirent en place les arcs repêchés par le jeune homme, qui cette fois bizarrement était très attentif à ce qui se passait. Une fois les préparatifs achevés, Crâne Moche invoqua les esprits. Caraba fixa les algues, ses mains posées sur le socle de bois et rien. La pression qui les tenaillait était presque perceptible. Lorsque discrètement, sans que personne ne le remarque, le jeune homme souffla. Son souffle virevolta au-dessus des algues. Un tourbillon se dessina et jaillit avec vigueur un immonde crapaud vert coassant de toutes ses forces. Crâne Moche et Caraba n'en croyaient pas leurs yeux.
Elles avaient réussi. Oh non, 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 ce n'était pas possible.
Elles regardèrent en direction du jeune homme, qui leur fit un magnifique clin d'œil accompagné d'un large sourire.
Caraba dit « Oh, je reviens pas !»
Quant à Crâne Moche, elle ne put que balbutier.
« Mais comment ? Mais enfin, comment ?»
Elles comprirent alors. C'était lui. C'était lui qui avait fait réussir le tour.
Mais alors ils étaient donc. Oh ! En même temps, toutes deux s'écrièrent : Mais il est sorcier !
Restant figées sur place de surprise, elles le regardèrent s'avancer doucement en sifflotant. Arrivé près d'elle, il dit :
Vous n'avez rien vu venir. Vous pensiez m'épater avec vos tours de magie. Eh bien, vous venez de recevoir une belle leçon d'humilité, pas vrai? En effet, rien ne sert de vociférer, de se révolter l'une contre l'autre. On est sorciers, ou pas?
Ben, j'espère que toutes ces histoires ne vont pas empêcher nos chères petites têtes blondes, et peut-être même les grands, je ne sais pas, de ne dormir cette nuit. Mais bon, allez, ce sont des histoires pour rire, n'est-ce pas Agathe?
Oui, puis de toute façon, on n'a pas fini de croiser des sorcières, parce que Halloween n'est pas encore passé.
Non, je crois qu'on va en croiser dans les rues, et on va être obligé de se fournir en bonbons pour tous les enfants.
On va se quitter, Dominique, encore merci pour ce très chouette moment, et on se retrouve dans 15 jours.
À bientôt, Agathe.